Nous sommes en 1916 et vous écoutez le Mac Chauve 1916, votre magazine d'information nationale et internationale sur Prune 92 FM. Retrouvez les journalistes et chroniqueurs de la rédaction en direct et accompagnés par des experts et analystes politiques et stratégiques. Avec eux, apprenez-en plus sur les avancées techniques au front, la situation de nos soldats et le contexte économique et social en France. Le Mac Chauve 1916 vous propose un tour d'horizon de l'actualité en cette période de guerre mondiale.
Vendredi 29 décembre 1916, 879e jour de guerre.
Le Mac Chauve 1916 sur Prune 92 FM.
Bonjour et bienvenue, chers auditeurs, dans notre magazine parlé Mac Chauve 1916. Le dernier de cette année 1916, comme la dernière fois, nous allons vous parler des sujets majeurs du moment. Mais pas que. Donc, place aux faits marquants de ces deux derniers mois, avec notre journaliste Gaylor et nos experts Valentin, Swan et Abdoul. Voici les premiers titres avec Gaylor.
Le Mac Chauve 1916, votre magazine d'information nationale et internationale.
Bonjour Clément, bonjour à tous. La guerre toujours et avec, bien sûr, la bataille de Verdun. Vous vous souvenez, chers auditeurs, du « Courage, on les aura », du général Pétain. Eh bien voilà, le fort de Vaux a été repris le 3 novembre. Et le 21 décembre, au terme de 300 jours et 300 nuits de combat. La plupart des positions perdues pendant la bataille ont été reprises par l'armée française. La bataille de Verdun est gagnée. Valentin, notre expert, a pu faire un premier bilan sur ces 10 mois de bataille.
Bonjour, il est difficile de se faire une idée précise des chiffres. Il y a tellement de corps disparus de part et d'autre. Nous ne pourrons que vous présenter des chiffres approximatifs. Les hommes d'abord. On peut estimer que plus de 150 000 de nos poilus sont morts. Et plus de 250 000 ont été blessés. C'est bien une bataille importante pour nous.
En dehors de la durée du conflit, comment expliquer le grand nombre de victimes?
Pour la durée, comme le disait Gaylor, c'est 300 jours et 300 nuits. Donc si je vous réponds 100 000 obus par jour et le double lors des attaques, quand on sait que les trois quarts de notre armée ont combattu à Verdun, on comprend mieux que le nombre de victimes. Et évidemment, on peut penser que côté ennemi, ce n'est pas mieux.
Et vous parlez des victimes militaires?
Oui, Gaylor. Mais il y a aussi les victimes civiles qui ont subi les répercussions de 10 mois de combats acharnés autour de Verdun. Avec 9 villages détruits, on peut imaginer que les 3000 habitants qui ont fui avant les combats puissent un jour revenir. C'est impensable. D'abord, le territoire est complètement dévasté. Ensuite, comment vivre là où sont morts tant d'hommes?
Oui, on peut comprendre cela. En attendant, nous pouvons donc être fiers de nos braves soldats.
Et je voudrais ajouter, si on a le temps, on peut imaginer, et c'est fort probable, qu'il y a autant de morts chez l'ennemi. Et ça fait à raison de 3000 morts pour 300 jours. Une moyenne de 1000 morts par jour à Verdun.
Vous avez raison. Il faut penser à ce que nous ferons de ces territoires dans l'avenir. Allez, je fais un rêve. Plus tard, nos deux pays, unis main dans la main, à Verdun pour faire cesser toute guerre entre nos deux pays.
Oui Clément, c'est un rêve, pourquoi pas. Mais avant, il faut finir cette guerre, et la gagner bien sûr. Et votre rêve, ce sera peut-être pour plus tard. Dans les années 40, quand nous n'aurons pas oublié toutes ces souffrances. Mais...
Le Mac Chauve 1916, votre magazine d'information nationale et internationale.
Gaylor, cessons ces bêtises. Nous sommes à l'antenne. Et revenons à la Somme. Cette bataille est également finie. Swan, vous allez nous rappeler les enjeux de cette offensive.
Bonjour à tous. Bonjour Clément. Cette histoire remonte à l'an passé. En décembre, les Alliés décident de mieux coordonner leurs forces et d'attaquer pour percer le front de l'adversaire entre Bapaume et Péronne et d'atteindre Valenciennes, Maubeuge, Cambrai, nœud des communications allemandes.
Évidemment, personne ne pouvait prévoir l'attaque de Verdun.
Ce qui explique pourquoi les Français ont été moins nombreux que prévu. Mais l'offensive a finalement été déclenchée, comme nous le savons tous, le 1er juillet. On vous parlait lors du dernier magazine, les pertes catastrophiques de l'armée britannique. Cela dit, l'adversaire a fini par reculer, même si ça a été pour se retrancher dans ses lignes de défense. La suite, on la connaît, guerre d'usure comme on dit.
Sauf qu'au bout de 5 mois, les troupes sont épuisées. On le sait, la météo est exécrable depuis septembre. Malgré de nombreux soldats sur le terrain.
En effet, les intempéries ont mis fin au combat. La bataille cesse donc le 18 novembre. Vous citez des chiffres impressionnants au sujet de la bataille de Verdun. Pour la Somme, également, on peut parler de très lourdes pertes. Il va être difficile d'imaginer qu'à l'avenir, nos états-majors nous entraîneront à nouveau dans de tels combats.
A-t-on déjà des chiffres ?
Le bilan militaire d'abord. Après 5 mois de combat, l'avancée des alliés se mesure à 12 petits kilomètres au nord et 8 au sud. Si on compare les moyens humains et matériels en jeu, comment dire, c'est dérisoire.
Vous avez des chiffres plus précis ?
C'est pour les Britanniques que les pertes sont les plus terribles. 420 000 hommes hors de combat, dont 130 000 morts et 78 000 disparus.
Et pour les Français ?
Eh bien, c'est également dramatique. Plus de 40 000 morts, 27 000 disparus, sans compter les blessés. Plus de 100 000, évidemment, ce ne sont sans doute pas mieux chez l'ennemi.
Bien sûr, quelques nouvelles françaises avant de poursuivre. Au gouvernement d'abord. Le général Lyautey est notre nouveau ministre de la guerre. Depuis le 12 décembre, et à la tête des armées, c'est Robert Nivelle qui a remplacé le général Joffre, nommé maréchal de France, Gaylord. Vous avez quelques précisions sur ces changements ?
Qui ne connaît pas le maréchal Joffre ? Bien sûr, il a joué un rôle efficace les premiers mois du conflit. Mais depuis 1915, beaucoup s'interrogent sur ses réelles capacités. Bon nombre de ses stratégies ont, semble-t-il, plutôt cessé plus de pertes en hommes que de véritables avancées sur l'ennemi. Ce qui l'explique qu'il a été la cible de certains milieux militaires et politiques. Aujourd'hui, il a été écarté par la présidente du Conseil et se trouve en retraite.
Le Mac Chauve 1916, votre magazine d'information nationale et internationale.
Et puis, n'est-on pas face à une certaine modernisation de nos armées ? Qu'en dites-vous, Swan ?
Effectivement, on peut se vanter du développement de l'aviation. Avez-vous entendu parler de l'escadrille Lafayette ? C'est son nouveau nom depuis le 6 décembre, mais elle existe depuis le mois d'avril. Eh bien, elle a été constituée par des aviateurs américains engagés volontaires. Et figurez-vous qu'ils sont dirigés par deux officiers français, le capitaine Thénault et le lieutenant Lage de Meux. Ces Américains se disent motivés par la mémoire du geste du marquis de Lafayette.
C'est un bel hommage de leur part. On pourrait souhaiter que l'ensemble des États-Unis en fasse autant.
Les continents américains nous apportent son aide par d'autres moyens.
Ah oui, et comment ?
Ce sont des bûcherons canadiens. C'est tout un corps forestier qui s'est constitué le 21 novembre. Leur mission consiste à fournir du bois pour le front. Visiblement, d'après nos reporters, leur savoir-faire est impressionnant. Et ils utilisent plein de moyens comme on en a pu dans nos campagnes françaises. Vaste scierie démontable rapidement, voie de chemin de fer provisoire, treuil à vapeur, glissière, wagonnet.
Tout cela témoigne de leur grande technicité. On ne quitte pas le continent américain. Le 7 novembre a vu la réélection de Wilson comme président des États-Unis. Est-ce à dire que les années à venir vont voir ce qu'on appelle les Américains prendre une place de plus en plus importante ?
Le Mac Chauve 1916, votre magazine d'information nationale et internationale.
Mais il y a eu d'autres changements en Europe, chez nos amis britanniques, par exemple. C'est David George qui est devenu le Premier ministre le 10 décembre dernier. C'est un gouvernement de coalition. Et peut-être serez-vous surpris d'entendre qu'il a instauré de nouveaux ministres comme celui de l'animation.
Ce sont là encore des effets de la guerre.
Nécrologie internationale dans le Mac Chauve 1916.
Ce fameux moine accusé d'exercer une influence néfaste sur la famille impériale russe. Il aurait été assassiné par le prince Félix, nous n'en savons pas plus. Et ce que cela annonce une instabilité à venir à Moscou.
Le Mac Chauve 1916, c'est l'instant culture.
Avez-vous, en cette fin d'année, quelques nouvelles plus légères ?
Oui Clément, et c'est encore aux États-Unis. La saison des Grands Prix automobiles 1916 a comporté 3 épreuves. Elles ont toutes été disputées aux États-Unis à cause de la guerre. La Coupe Vanderbilt et le Grand Prix des États-Unis.
Commençons par les 300 000 d'Indianapolis. C'était le 30 mai.
Oui, comme les spécialistes ont pu le remarquer, en 1916, les 500 000 sont devenus les 300 000. La course n'a été programmée que sur 120 tours en raison des restrictions liées à la guerre. Mais c'est un véhicule français, une Peugeot, qui a gagné, piloté par un Britannique, Dario Resta. Il a bouclé la course en 3h34 minutes et exactement 17 secondes.
C'est remarquable. Et pour la Coupe de Vanderbilt ?
Eh bien, elle s'est déroulée le 12 octobre à San Monica, en Californie. Et nous avons les mêmes résultats. Même vainqueur pour le constructeur et le pilote. La Peugeot pilotée par Dario Resta.
A-t-on les mêmes résultats pour le troisième prix, celui du 18 novembre, pour le Grand Prix automobile?
Eh bien, là encore, c'est une Peugeot. Mais les pilotes sont américains. Willa Cox et Aiken.
Ce sont des nouvelles qui font plaisir.
Le Mac Chauve 1916, c'est l'instant culture.
Culture maintenant. Avec quelques idées de lecture pour nos soirées d'hiver. Abdoul, avez-vous une liste à conseiller?
Bonjour à tous. Pour les adultes et pour les enfants, je commence avec ce genre un peu nouveau. La bande dessinée et ce titre « Bécassine pendant la guerre » de Joseph Pinchon.
Voyons, est-ce sérieux? Peut-on se distraire avec la guerre?
Oui, et surtout nos enfants peuvent apprendre beaucoup. Figurez-vous que le personnage de Bécassine a un fiancé qui part pour la guerre en 1914. Elle-même part visiter la petite partie alsacienne reconquise par les Français. Vous le voyez, sur la page de couverture, elle tient par la main deux enfants alsaciens, heureux d'aborder nos couleurs françaises.
Vous avez raison. Et pour les plus âgés, quel titre de roman?
Oui, Clément. Et la guerre est à l'honneur, si on peut parler comme ça. D'abord, une fable satirique de Pierre Chêne, Les Mémoires d'Ara.
Racontez-nous.
C'est l'histoire de Ferdinand, rat combattant aux côtés du soldat Juvenet. Il partage et noue avec la vie quotidienne des poilus. Je ne vous en dis pas plus, c'est original et intelligent. Deuxième titre, un roman de Maurice Leblanc.
Encore un Lupin?
Non, le titre c'est L'éclat d'obus. Vous l'avez compris, une aventure de guerre et d'espionnage avec beaucoup de péripéties. Lisez-le, vous ne vous ennuierez pas.
Pour évoquer la guerre, il y a le nouveau prix Goncourt.
Oui Clément, tout le monde a entendu parler de ce magnifique roman d'Henri Barbus, Le feu au journal d'une escouade. C'est un roman bien sûr, mais Barbus est un combattant, c'est son expérience qui a nourri ses pages. C'est donc un bouleversant témoignage de la vie quotidienne dans l'étranger.
Et de la poésie?
Bien sûr, je voudrais terminer par la publication du recueil des poèmes d'Émile Varirène, Les ailes rouges de la guerre, aux éditions Mercure de France. Ce poète belge disparu le mois dernier nous a laissé encore une fois un chef-d'œuvre. Swan, va derrière nous en lire un extrait.
Oui, un court extrait du titre « Soldat mort à la guerre ». Soldat mort à la guerre, qui remplissait le sol mortuaire. Là-bas, le spectacle encore rouge des combats, dans nos yeux sous la terre. Voici venir pieusement vers nous les pas de ceux dont l'âme vous est ferveur, orgueil, mémoire et flamme, mais dont les yeux ne pleurent pas.
C'est émouvant. Nous allons regretter ce poète qui s'était réfugié à Londres. Il a écrit des poèmes pacifistes. Il restera un homme qui a lutté à sa manière contre la folie de la guerre.
Nécrologie internationale dans le Mac Chauve 1916.
Nous avons également à déplorer la disparition de Jack London. Le 22 novembre dernier, ce jeune écrivain de 40 ans nous avait parlé de nature et d'aventure dans le Grand Nord. On lui doit, bien sûr, Croque Blanc ou bien L'Appel de la Forêt. Je conseillerais nos jeunes auditeurs de lire ces romans, s'ils n'ont pas encore eu la chance de le faire.
Autre décès à déplorer, celui du père Charles de Foucault. Le 1er décembre, les raisons de sa mort ne sont pas claires. Il a été assassiné par des bandits Touareg ou par l'adolescent qui devait assurer sa garde. Il a donc été tué à l'âge de 58 ans dans son ermitage de Tamraset au cœur du Sahara.
On en saura certainement davantage dans les semaines qui viennent. Mais je voudrais terminer cette nécro avec deux autres noms, et pas des moindres. D'abord, nous avons appris la mort du dernier roi de Birmanie. Chibrol Min, décédé à l'âge de 58 ans des suites d'un infarctus. Il était exilé en Inde suite à sa tentative de liberté la base Birmanie du joug britannique.
En effet, c'était le 11e souverain de la dynastie Kambung. Et l'autre nom?
Vous le connaissez, Clément. C'est le vieil empereur français, Joseph Ier. Il est mort le 21 novembre.
Quel portrait, en quelques mots?
Eh bien, c'est un vieux monarque, vieux par son âge, 86 ans. Vieux pour la durée de son règne, 68 ans. Et donc, c'était un homme d'une autre époque.
Il a connu des drames familiaux?
Oui. Rappelez-vous cette histoire racomblesque, c'était quand Napoléon III avait donné la couronne de Pierre du Mexique. Neveu de François-Joseph, c'était en 1986. Un an après, il a été fusillé et son corps rapatrié en catastrophe en Europe.
Et son fils, Rodolphe?
Oui. L'unique héritier, qui se suicide à 31 ans. Mais évidemment, vous alliez m'interroger sur Sissi.
Qui ne le connaît pas?
Qui a oublié cette tragédie? Le samedi 10 septembre 1998, une vieille dame de 61 ans est assassinée à Genève par un anarchiste italien. C'est Sissi, reine de Hongrie, quand on pense qu'elle a été tuée par hasard. On dit que l'empereur ne s'en est jamais vraiment remis.
Et qui lui succède ?
C'est Charles Ier d'Autriche. La situation pour lui va être délicate, avec ce conflit qui s'est enlisé.
On va terminer avec Abdoul. Quel bilan peut-on dresser au sujet de la météo en cette fin d'année ?
Météo chaude 1916, la météo en France et au front.
Pas de neige en vue, mais toujours et encore de la pluie. Depuis novembre, ça n'arrête pas, avec des dépressions d'un niveau extrêmement bas. Le 18 novembre, par exemple, 707 mm de mercure à Nantes et 718 à Paris. Ça explique les quantités de pluie relevées ici et là. Autre exemple marquant, à Perpignan, où il est tombé le 1er décembre dernier, l'équivalent de 2 à 3 mois de précipitations. Et les inondations commencent à se produire en ce moment dans le nord.
Verra-t-on enfin un vrai hiver l'an prochain ? Voilà, c'est fini, chers auditeurs, nous terminerons ces magazines de l'année 1916. Nous avons été heureux de partager avec vous ces moments sur des ondes. Nous vous remercions pour votre fidélité, les élèves de la classe de 3e A du lycée Monge-la-Chauvinière.
Now it seems that all my dreams are all of you. You used to be so nice to me in days gone by. But all that now is changed somehow, I wonder why. You called me baby doll a year ago. Told me I was very nice to know. I soon learned what love was. I thought I knew, but all I've learned has only taught me how to love you. You made me think you loved me in return. Don't tell me you are fooling after all. For if you turn away, you'll be sorry someday. You left behind a broken doll. You bring me flowers and stay for hours with me alone. You led me to believe that you were all my own. You let me see you wanted me. Why don't you now? I'll prove I'm true if only you will show me how. You called me baby doll a year ago. You told me I was very nice to know. I soon learned what love was. I thought I knew, but all I've learned has only taught me how to love you. You made me think you loved me in return. Don't tell me you are fooling after all. For if you turn away, you'll be sorry someday. You left behind a broken doll.